ensemble pour comprendre ce que veut dire la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important. Donc même si nous sommes ici un peu de passage, le fait d'être aujourd'hui rassemblés avec la Bible ouverte, c'est que le Seigneur nous parle. Et donc moi je vais prier pour que nous puissions écouter attentivement. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous en Christ. Donne-nous Seigneur de comprendre ta grâce, donne-nous aussi de comprendre ce que ta grâce implique, signifie pour chacun d'entre nous. Donne-nous de comprendre les enjeux du retour de Jésus. Et donne-nous donc d'encourager les uns les autres pour que chacun d'entre nous, nous soyons prêts pour ce jour-là. Merci pour ta parole qui reste encore vivante. Que ton esprit se sert de ta parole pour donner vie. Et nous te prions encore aujourd'hui. Tu nous donnes la vie en ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Hier, je suis allé à la déchetterie. Est-ce que vous savez ce que c'est? En été, vous avez un peu plus de temps, vous videz un peu le garage et vous voulez jeter certaines choses à la déchetterie. J'y étais avec ma fille et mon beau-père. C'était très agréable. Parce que dans un sens, c'est une tâche que j'aime bien faire, aller à la déchetterie. On rentre avec le sentiment d'être un peu libre, enfin, du brôle qui traîne dans le garage depuis un an ou deux. Mais si vous nous rendez visite et vous voyez encore aujourd'hui notre garage, vous n'allez pas avoir l'impression qu'on a vidé beaucoup de choses. Mais donc, ça, c'est notre affaire, non pas le vôtre. Mais il y a un autre sens où c'est triste d'aller à la déchetterie, n'est-ce pas? Parce qu'on voit le passage de temps quand on jette ce qui autrefois était très utile, ce qui servait à un rôle important hein, à un moment donné dans la vie de la famille. Moi, je me souviens, hier, c'était une vieille imprimante que j'avais pendant plusieurs années et ça traînait depuis 5-6 ans sans être utilisé chez nous. Et donc, du coup, c'était le moment de dire, bon, voilà, on doit la mettre à la poubelle. Cela me rappelle, si vous voulez, que cette époque-là est passée. Ce qui était très utile à un moment donné peut terminer tristement dans une déchetterie. Et même à la déchetterie, il y a un tri à faire, n'est-ce pas? C'est dans un sens assez rigolo de faire ça. J'aime faire ça aussi. Carton, métal, électronique, bois, etc. Mais ce qui est destiné au feu par la suite, c'est ce qu'on appelle les encombrants. Okay? Et c'est toujours bien quand la personne qui gère la déchetterie voit la voiture, tout ça c'est pour des encombrants. C'est plus facile, super, je peux juste le jeter au lieu de devoir trouver tous les différents trucs. Les encombrants ne sont bons pour rien. Hier pour nous, c'était les cassettes VHS. Enfin, on n'a plus de cassettes VHS. D'où on voulait les garder dans l'espoir qu'à un moment donné, on va aller remettre le truc cassette de VHS. Je dis, ben non, c'est fini. Des vieux jouets des enfants, un mobile bébé qui a servi pour nos 4 enfants, etc. Maintenant, bon pour rien, pour le feu. À un moment, ces choses avaient leur utilité, mais les voici. Bon pour le feu. Et donc, ce matin, dans ce passage de Matthieu 25, que nous avons lu, où on arrive à la fin d'une petite section d'un chapitre, le 25, qui parle du retour de Jésus-Christ. D'abord, il y avait les deux paraboles que nous avons vues avec Robbie les deux semaines précédentes. Mais ce chapitre termine non pas strictement avec une parabole, ça parle des boucs et des brebis, mais ce n'est pas vraiment une parabole, c'est Jésus qui enseigne maintenant. Et c'est quoi le sujet? Le sujet reste le retour de Jésus, comme Philippe l'avait déjà indiqué. Et le message du chapitre dans son ensemble, c'est de veiller quand le Seigneur revient. Les deux paraboles qui précèdent nous aident à comprendre ce que veiller implique. Il faut le faire avec persévérance, car selon la parabole des 10 vierges, il y aura un délai. Et il faut le faire en mettant tout ce que nous avons à la disposition de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la parabole des talents que nous avons vue la semaine dernière. Alors, qu'ajoutent maintenant les versets que nous venons de lire? Parce que c'est clair que dès le début, verset 31, le sujet reste le retour de Jésus, n'est-ce pas? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Le sujet dont Jésus parle, c'est bien le jugement dernier quand il reviendra. Verset 32, « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. » Lors de ce jugement, dit-il, il va y avoir un tri. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et ce serait aussi simple. Un berger ne confond pas ce qu'est une brebis ou un bouc. Il le sait. C'est clair, c'est facile pour lui. Et tout comme le berger le fait, verset 33, il mettra le Fils de l'homme, les brebis, à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34, « Et Jésus, le roi, dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc les enjeux ici sont énormes, chers amis. Jésus ne le cache pas. D'un côté, prenez possession du royaume. Le royaume de Dieu, pleinement accompli, enfin, où Dieu règne dans sa nouvelle création avec son peuple, avec des nouveaux corps sur une nouvelle terre, où il n'y a plus de péché, plus de larmes, plus d'angoisse, plus de crainte, plus de haine, plus de violence, plus de blessures. C'est ça ce que nous avons vu dans le groupe d'été la semaine dernière, d'avoir un regard de la fin par rapport à nos souffrances de ce jour-ci. Parce qu'à la fin, là, nous aurons notre Dieu, le Créateur, notre Rédempteur, présent parmi nous pour nous combler de tous ses bienfaits. Mais de l'autre côté, à gauche, c'est l'exclusion totale. Verset 41, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. » Oui, comme à la déchetterie, ces personnes seront destinées au feu. Oui, la distinction aujourd'hui n'est pas claire. Aujourd'hui, les deux catégories, brebis et bouc, sont mélangés, si vous voulez. Comme c'est le cas à la maison, avant de trier des poubelles. Vous savez ce que c'est? À un moment donné, même à la maison, on trie, n'est-ce pas? On se sert des cartons de jus d'orange, okay, pendant un petit moment, et on se sert des jouets, disons, du monde Marvel, pour les enfants. Et l'un, à un moment donné, sera trié pour le recyclage, les cartons jus d'orange, et l'autre, ces petits personnages, etc., se trouvera à un moment donné dans les encombrants. C'est ça le tri qui va avoir lieu. 46, verset 46, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc cette séparation est définitive, éternelle. Alors j'espère que vous voyez, chers amis, que les enjeux sont bien élevés pour nous ce matin, en écoutant ces paroles de Jésus. Et donc, nous devons poser la question, n'est-ce pas, sur quelle base la séparation se fait-elle? Sur quelle base? Est-ce qu'il va y avoir cette séparation? C'est une question capitale à comprendre pour qu'on puisse éviter de se trouver ici plutôt qu'ici. Nous devons poser la question. Il n'y a pas de question plus importante pour notre avenir à plus long terme. Non pas notre avenir à court terme, pour 10 ans, pour 30 ans, pour 50 ans, mais pour notre avenir à 5000 ans, 500 000 ans, et ainsi de suite. Et donc Jésus explique le critère par lequel il va faire le tri. Et il explique à partir du verset 35. « Car j'ai eu faim, dit-il, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous vu recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Donc Jésus dit une chose et eux ils disent, « Mais attends, cela a lieu quand ?» Et donc voici ce que Jésus dit au verset 40. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est à moi que vous l'avez fait. Et donc c'est la même chose pour ceux qui seront à sa gauche. Eux aussi, ils se demandent quand est-ce qu'ils n'ont pas agi de la sorte, parce que Jésus dit, ils n'ont pas fait toutes ces choses. Et verset 45, il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Donc pour certains, peut-être pour vous ce matin, nous pouvons lire ce que Jésus dit dans ses explications au verset 40 et verset 45, et nous pouvons dire ceci, Jésus donnera donc possession de son royaume, va faire le tri sur critère, sur base de ceux qui donnent à manger ou à boire aux pauvres, ceux qui accueillent, qui habillent l'étranger, l'immigré, ceux qui prennent soin des malades ou des prisonniers. Peu importe, selon cette lecture de ce que Jésus dit, peu importe notre religion, notre culture, notre sexualité, etc., ce sont nos actes de justice qui comptent. Et avec cela, on pourrait espérer prendre possession du royaume. Est-ce cela le message de la foi chrétienne pour vous, chers amis ? Ici présent, peut-être de passage, peut-être de longue date avec nous, mais vous dites, ah oui, moi, c'est plutôt ça ce que je pense, moi. Il nous faut, il me semble, donc, travailler un peu ce passage pour comprendre ce que Jésus veut dire. Parce que je ne suis pas d'accord, je pense que le texte n'est pas d'accord de dire que c'est une interprétation juste. La première chose donc à régler, vous allez voir qu'on a trois questions que nous traitons sur le dos de votre... Voyez, la première chose à régler, c'est l'identité des frères dont parle Jésus au verset 40. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et selon l'interprétation que je viens de vous donner, frère, c'est le sens large du terme. Tout le monde, tous les êtres humains, et surtout ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, les persécutés. Ils sont tous donc nos frères. Nous sommes tous d'une commune humanité. Nous sommes tous frères et sœurs. Dans ce sens-là, ils disent. Mais si Matthieu, donc celui qui écrit cet évangile, s'il emploie ce terme « frère » dans ce sens-là, ailleurs dans son évangile, on aura raison de pencher alors pour cette compréhension-là. Mais ce n'est pas le cas. Quand il ne parle pas des frères génétiques, par exemple les frères de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Dans ça, il en parle dans cet évangile. Mais quand il emploie le mot frère ailleurs, Jésus parle exclusivement de ses disciples. Matthieu chapitre 12, ici ce ne serait pas projeté sur l'écran, vous allez chercher ça si vous voulez suivre, mais sinon vous pouvez simplement écouter. Matthieu chapitre 12, verset 49, juste avant cela, donc verset 46-47. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient en dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Verset 49. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. » Et ma sœur, et ma mère, disciple, là c'est clair, frère pardon, c'est clair, ça soit un disciple de Jésus. Si on ajoute à cela le chapitre 10, verset 42, qui dit ceci, j'espère que vous allez entendre un écho avec le chapitre 25 que nous avons déjà lu. Chapitre 10, 42, dit ceci, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide » à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » La ressemblance là est frappante avec notre passage, n'est-ce pas? L'un de ses plus petits de mes frères. Dans le contexte de Matthieu, c'est bien les disciples de Jésus. Bon, ici, je pense que c'est important de dire ceci. Ce n'est pas que la Bible n'a rien à dire, à nous dire en tant qu'Église, par rapport à nos responsabilités envers les autres, envers les pauvres, envers les démunis, les prisonniers, les persécutés. Paul, en Galates, chapitre 6, dit ceci, verset 10. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Et puis il ajoute, et surtout envers les frères en la foi. Pratiquez le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. C'est-à-dire vers d'autres disciples. Et c'est bien de cette responsabilité-là, donc, dont parle Jésus en Matthieu 25. Il ne faut pas qu'on se sert de Matthieu 25 pour dire quelque chose qui est dit ailleurs dans la Bible, parce que nous allons tordre ce que Jésus dit en Matthieu 25 pour que ça soit conforme à ce qu'on veut qu'il dise. Non, nous voulons apprendre ce que Jésus a à nous dire. Les chrétiens du 1er siècle, peut-être vous ne le savez pas, mais ils ont été vite persécutés, vous savez, pour la foi. Nous sommes ici au soleil et dans la liberté, et donc, parfois, nous avons du mal à nous rappeler qu'être chrétien au 1er siècle n'était pas comme cela peut être aujourd'hui pour nous, ici en Belgique. Les chrétiens étaient vite chassés de leur maison, jetés aux prisons, devaient souvent s'enfuir vers d'autres villes parce qu'il y avait de la persécution, rien parce qu'ils professaient le nom de Jésus-Christ. Qui allait prendre soin de ces chrétiens à cette époque-là? Est-ce que ce serait l'Empire romain qui les persécutait? Non, c'était d'autres chrétiens, des frères et des sœurs. Qui allait rendre visite à ces chrétiens en prison? Est-ce que c'était des païens qui s'en fichaient royalement de cette nouvelle religion dans l'Empire romain? Non, c'était d'autres chrétiens qui faisaient cela. Les disciples de Jésus se soucient d'autres disciples. Parce que d'autres disciples aussi font partie de la même famille. Nous nous soucions donc des autres membres de la famille de Dieu. Mais alors voilà, on va vers notre deuxième remarque. Peut-être vous avez remarqué que Jésus félicite les brebis à sa droite pour l'amour que les justes, ses brebis, ont manifesté, non pas envers ses disciples, mais envers lui. Verset 35, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Donc comment est-ce possible? Il demande par la suite, n'est-ce pas? Il leur dit, « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Bien sûr, dans un sens, on ne peut plus persécuter Jésus, physiquement parlant, aujourd'hui. Il est ressuscité, il est assis à la droite de son Père. Mais les disciples de Jésus font partie, par la foi, de la famille de Dieu, du corps du Christ, l'Église. Et Jésus, il est la tête de son corps. Et il s'identifie donc avec ses disciples. Si nous persécutons l'un de ses enfants, alors nous persécutons Jésus lui-même. Vous vous souvenez peut-être de l'apôtre Paul à cet égard. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui disait sur le chemin de Damas lorsqu'il s'est converti, chapitre 9 du livre des Actes. Verset 3, Paul qui était en chemin et lorsqu'il approchait de Damas, pour menacer, arrêter des chrétiens, souvenons-nous. Hein, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi ?» Alors quoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi persécutes-tu l'Église ? Pourquoi persécutes-tu mes disciples ? C'est ça ce qu'il était en train de faire. Non ? Pourquoi me persécutes-tu ? Disait-il, le Seigneur Jésus ressuscité. Donc ici, il dit, « Toutes les fois que vous avez fait cela, hein, l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et le réveil de la médaille, c'est le verset 45, n'est-ce pas? Verset 45, « Toutes les fois... » On va juste attendre deux secondes. Voilà, verset 45, « Toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ce n'est pas possible donc de distinguer l'amour pour Jésus-Christ de l'amour pour ses disciples. Celui qui n'a pas de moindre souci pour d'autres chrétiens n'est pas, en dépit de toute apparence éventuelle, un vrai disciple de Jésus. Notre amour pour Jésus se voit en toute transparence à travers notre amour pour les autres, pour les disciples de Jésus. Des disciples qui sont souvent bien différents de nous, n'est-ce pas? Des disciples que peut-être on n'aurait jamais choisis en premier lieu comme des amis. Mais le Seigneur nous a mis ensemble dans son Église. Si Dieu m'a gracié, malgré mes fautes, par la bonne nouvelle de Christ, qui suis-je pour me plaindre lorsque je vois qu'il a fait de même pour quelqu'un d'autre, quelqu'un avec d'autres fautes que la mienne, que les miennes? Si tous les deux sont pardonnés par Dieu, tous les deux rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, de sa mort à la croix, à notre place, alors cela crée un lien profond entre nous deux. Nous sommes en effet frères, membres de la même famille, héritiers par grâce, tous les deux, des mêmes promesses du royaume du Christ Jésus qui est encore à venir dans toute sa plénitude. Et ça nous mène donc au troisième point à régler, avant de tirer quelques conclusions pour nous. Et donc, c'est la source de l'amour dont parle Jésus. Parce que nous avons vu que la séparation se fait en rapport avec l'amour que nous avons manifesté à d'autres croyants. Mais ce n'est pas pour autant que c'est à travers ces actes d'amour que nous sommes devenus des brebis. Non! Ce n'est pas qu'il faut atteindre un certain nombre, un certain pourcentage de bonnes actions envers des disciples avant qu'on soit considéré une brebis. Ah, tu vois, Seigneur, ici, j'ai visité 50 prisonniers dans ma vie. J'ai accueilli au moins 10 étrangers. J'ai donné manger à 30 mendiants. S'il te plaît, maintenant, alors que je puisse faire partie des brebis, tu me qualifies comme brebis. Non, non. La surprise, en fait, de ce passage, c'est, ce qui est frappant, c'est de la part des brebis. Lorsqu'ils disent, ou elles disent au verset 37, « Seigneur, quand est-ce que nous avons fait cela ? Quand est-ce que nous avons fait cela ?» L'amour qu'ils ont manifesté est un amour manifesté inconsciemment presque, naturellement, qui coule des sources. Pourquoi ? Car il s'agissait des vraies brebis. Ils ont fait confondre des brebis. Tout comme nous avons vu il y a une semaine que le vrai serviteur de Dieu fera fructifier les ressources qui nous ont été confiées par Dieu, de même dans ce passage, la vraie brebis d'office manifeste cet amour envers d'autres chrétiens. Ça va de soi. Celui qui se jette au pied de la croix de Jésus-Christ, qui reconnaît sans besoin d'être lavé par le sang de Jésus pour ses péchés. Un tel, comme dit Jésus dans Jean chapitre 3 par exemple, est né de nouveau, régénéré par Dieu, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et donc cela aura des suites dans notre vie. Jésus lui-même le disait, Jean 13, « À ceux-ci tous connaîtront » que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas que c'est l'amour, notre amour, qui fait de nous des disciples. Mais si nous sommes des disciples, le signe que nous sommes des disciples authentiques, c'est que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Donc ce n'est pas la perfection que nous visons pour être capable de dire « Voilà, je suis une brebis et je ne suis pas un bouc ». Ce n'est pas la perfection, mais c'est la transformation authentique, l'œuvre de Dieu dans notre vie. Une nouvelle attitude envers l'autre, une envie de pardonner, de porter le fardeau d'un frère ou une sœur, de se réjouir avec l'autre, d'encourager l'autre à suivre et à servir Jésus-Christ. Parfois on critique, je pense, les chrétiens d'être concerné rien que par un amour un peu égoïste entre chrétiens. Mais c'est trompeur de parler comme ça parce que c'est dans le cadre d'une église locale où nous sommes mis au défi de réellement pardonner, réellement porter le fardeau d'un frère ou d'une sœur. On peut parler de l'amour pour les autres de manière bras grands ouverts, j'ai un grand cœur pour les démunis. Mais une fois que quelqu'un et dans mon assemblée, qui n'est pas comme moi, qui m'embête parce que sa personnalité est différente. Alors là, je suis mis au défi dans la durée de ce que c'est d'aimer. Donc j'aimerais maintenant passer à quelques mots d'application pour terminer, si vous voulez bien. Vous avez vu ça sur le feuillet, si vous suivez cela. Parce que si le chrétien doit faire preuve de cette transformation, de cet amour, je pense que c'est important que nous réfléchissions juste un tout petit peu de ce que ça signifie pour nous. D'abord, alors, pour ceux qui sont en observation de la foi chrétienne, vous ne vous dites pas encore, en tout cas, que vous êtes un disciple de Jésus-Christ, mais vous réfléchissez par rapport à cela. Alors, j'aimerais vous dire que ce serait une tragédie pour vous, chers amis, de quitter cette salle en disant « Ah, ok, je m'engage à aimer un peu plus quelques chrétiens cette semaine. Ça va faire la différence. » Non, si la source de l'amour dont témoignent les chrétiens, c'est l'amour de Jésus lui-même pour nous, alors ce qu'il vous faut, c'est la connaissance de son amour, le pardon que nous recevons de sa part au pied de la croix. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui transforme le cœur. Et donc, il faut commencer là. Jésus, par notre union avec lui, par la foi, il nous change. Il est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et qu'est-ce que ça signifie? Pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Grâce à cela, il nous libère de notre péché pour que nous puissions à notre tour servir l'autre. Quiconque, dit-il, veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Nous suivons le Maître. Et donc, nous devons commencer avec le Maître. Est-ce que le Maître a fait pour nous? Mais alors, passons maintenant à celui qui se dit débutant dans la foi chrétienne. Peut-être assez récent, ou quelqu'un qui se dit jeune dans la foi. Vous savez, lors d'un tremblement de terre, les autorités sortent des caméras thermiques pour identifier là où il y a des personnes qui sont toujours en vie. C'est très utile d'avoir ces caméras thermiques. Mais si on pouvait se servir d'une telle méthode pour identifier un chrétien en vie, un chrétien authentique, l'un des indicateurs importants sur l'écran, c'est que cette personne a soif de rencontrer régulièrement d'autres chrétiens. Car si vous voulez, avant de se convertir, on regarde souvent des chrétiens comme étant une race un peu bizarre, une espèce un peu bizarre, n'est-ce pas? Ceux qui parlent de Jésus, ceux qui ne sont pas tout à fait normaux comme les autres. Quel est l'intérêt de se retrouver régulièrement avec de telles personnes? Mais une fois que nous devenons membres du corps de Christ, y a un vrai plaisir de côtoyer d'autres qui partagent cette grâce imméritée de la part de Christ. Une joie de s'intéresser aux autres, de découvrir comment Dieu a agi dans leur vie, de vouloir les encourager davantage à rendre honneur et gloire à Dieu dans la vie quotidienne. C'est une joie et ça c'est quelque chose qui doit grandir si nous venons de commencer dans la foi chrétienne. Je viens d'un camp chrétien pour des jeunes et l'un des privilèges d'un camp, lorsqu'on fait un camp pendant plusieurs années, c'est de voir la progression en maturité de quelqu'un qui était jeune, non converti, ou peut-être tout récemment converti, et de quelqu'un qui devient, par la grâce de Dieu, un vrai serviteur de Jésus et donc des autres. Et c'était chouette de voir tout un groupe de personnes pendant ce camp qui ont fait cette progression. Ça fait bon signe qu'ils s'intéressent à l'église locale, qu'ils s'intéressent à d'autres chrétiens qui veulent les encourager. Le contraire, bien sûr, fait mauvais signe. Même si on insiste que tout va bien avec ma foi. Dès que quelqu'un se dit peu intéressé par des réunions chrétiennes, ou se dit qu'il est là uniquement car il devrait l'être, obligation familiale ou autre, dès que nous utilisons la moindre excuse pour nous retirer de nos engagements chrétiens, ça fait mauvais signe, chers amis. Alors, qu'en est-il de ceux qui sont, disons, expérimentés dans la foi chrétienne? Selon Jésus, vous l'avez peut-être remarqué ici, il y aura des surprises lors du dernier jour, n'est-ce pas? Les boucs, dans le passage, s'étonner d'entendre qu'ils n'ont pas aimé Jésus. Il semblait donc qu'ils avaient en quelque sorte une doctrine bien orthodoxe par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. Mais de bien prendre le temps, malgré l'orthodoxie, d'aider des frères et sœurs, de s'intéresser à eux, de prier avec eux, ça non, ils ne le connaissaient pas. Il se peut donc qu'on se fatigue à un moment donné des relations chrétiennes, qu'on se dit « Oh, j'ai essayé cela pendant plusieurs années, mais à un moment donné, ça m'a blessé. » Oui, il y a des histoires où On se sent blessé par notre passé, par d'autres croyants même. Ou peut-être c'est pas que j'étais blessé, mais ou c'est pas que je désiste totalement, mais que je commence simplement à faire le minimum, le strict minimum. Je suis trop occupé, trop pressé, trop énervé pour vraiment m'investir avec le peuple de Dieu. Oui, les chrétiens vont de temps en temps nous décevoir, chers amis. Il faut qu'on soit prêt pour ça. Tu comme moi, je vais décevoir d'autres aussi. Je dois m'attendre à ce que d'autres vont me décevoir. Mais une brebis de Jésus-Christ a vite envie de trouver la paix entre frères. Vite envie de pardonner. Non pas de réclamer le tort de l'autre pendant des années pour ne pas participer à la vie d'Église. Non, vite envie de pardonner parce que Christ aussi nous a pardonné. Un indice parmi d'autres dans ce domaine, c'est celui de l'hospitalité, si vous permettez que je le dise. Je ne parle pas ici d'une grande soirée pour des invités, mais je parle d'une hospitalité simple, fraternelle. Un café avec un frère ou une sœur, un simple repas avec un visiteur, de passage, un verre avec un nouvel arrivé à l'église pour l'encourager un petit peu plus. L'hospitalité fait bon signe de cet amour, cet intérêt que nous portons vers les autres. Trois fois, vous savez, le Nouveau Testament nous exhorte à l'hospitalité après avoir mentionné l'amour fraternel. Je vais vous lire ces trois citations. Romains 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Phrase suivante, exercez l'hospitalité. Hébreux chapitre 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Verset 9. Exercez l'hospitalité, les uns envers les autres, sans murmure. Alors si ces versets-là, si cette expérience de l'amour, d'une hospitalité qui met en avant nos frères et sœurs, si vous ne connaissez pas du tout ce que c'est, alors revenez aux bases, chers amis, bien que nous soyons expérimentés dans la foi. Non, mieux vaut reconnaître cela maintenant que d'être surpris comme des boucs lors du jugement final. Un dernier mot pour des chrétiens engagés dans le ministère chrétien, dont évidemment je fais partie. C'est-à-dire ceux qui ont des responsabilités chrétiennes au sein d'une œuvre chrétienne ou d'une église locale, que ce soit pasteur ancien ou que ce soit un autre ministère pratiqué au sein de l'Église. Il y a beaucoup parmi nous ici qui exercent de tels ministères. Alors ce que Pierre dit aux anciens dans 1 Pierre chapitre 5 s'applique à tous ceux qui exercent un ministère. Comment dit-il ? Il dit « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non pas contrainte, mais de bon gré. » Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Oui, dès que quelqu'un nous consacre un ministère, peut-être on a vu qu'une telle personne faisait preuve d'un amour pour des disciples de Jésus, un amour pour Jésus, une capacité donc de travailler, et on consacre un ministère à quelqu'un. Que cela soit à temps plein, comme missionnaire, comme pasteur, que cela soit dans le cadre d'une activité que nous faisons à l'église, l'école de dimanche, gestion bâtiment, un groupe de quartier, etc. Dès que nous faisons cela, il y a un danger, et le danger c'est de devenir par la suite professionnel. Jusque-là, je le faisais ce que je faisais par amour. Et on me donne un ministère, et tout d'un coup je dis « Ok, maintenant, c'est une profession. Okay. » Et donc au lieu de décharger une responsabilité avec amour pour le bien des autres, nous le faisons car c'est un devoir, car on doit le faire. Mais chaque chrétien, y compris ceux qui ont une activité précise dans l'Église doit servir de façon naturelle. Il ne s'agit pas d'obligation d'avoir un ministère chrétien, il s'agit d'un privilège. Pour n'importe quel ministère, nous ne sommes plus que des serviteurs. Quel privilège que le Seigneur daigne de nous utiliser dans sa moisson. Donc pour un pasteur ou un ministre, de traiter les autres comme si ce sont ses patients à lui, comme s'ils sont ses clients, c'est de mécomprendre sa tâche. Oui, un médecin ferme son cabinet le soir et il rentre chez lui. Et chez lui, il n'exerce plus la fonction de médecin. Il est plutôt papa ou ami, époux, etc. Sportif, que sais-je. Un commerçant s'approche de la fermeture de son entreprise. Ce qu'il fréquente en dehors de son boulot, lorsqu'il rentre chez lui, ne s'agit pas de ses clients. Il y a distinction nette, n'est-ce pas? Client et vie en dehors de mon travail. Il se retrouve plutôt avec ses amis. Mais un ministre chrétien ne cesse jamais, vous le savez, d'être chrétien. Oui, bien sûr, nous avons tous besoin du repos. Je vais prendre un peu de repos dans ces semaines qui arrivent. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas que j'ai des relations professionnelles avec des membres de mon Église. Et qu'en dehors de dimanche, des tâches que je dois faire parce que je suis pasteur de l'Église, etc., je n'ai qu'un regard professionnel envers vous. Si cela est le cas, il faut me renvoyer de cette Église. Non, nous sommes d'abord, au-dessus de toute autre chose, frères et sœurs en Christ. Et je dois continuer à traiter mes frères et sœurs comme des frères et sœurs, premièrement. Donc, si j'ai une tâche dans l'Église, je ne dois pas tout d'un coup traiter les autres comme mes employés. Non, comme des frères et sœurs, comme une joie. Mais il y a un danger, que dès qu'on me consacre à un ministère, je commence à oublier l'amour, parce que je dois bien faire ça, okay? Pour ma gloire à moi, au lieu de faire ça par amour pour le Seigneur. Voilà, chers amis, on a parcouru quelques applications potentielles, et on aura d'autres, bien entendu. Jésus nous rappelle donc cette fin de Matthieu 25, l'importance d'un amour authentique pour les siens, ceux qui l'appartiennent. La séparation va se faire sur base de cette réalité. Est-ce que notre amour pour Jésus se voit en réalité dans notre amour pour d'autres disciples de Jésus-Christ? Et en ce faisant, si nous montrons un tel amour, nous suivons les pas de Jésus, notre Maître, celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Quelle joie d'avoir Jésus comme notre Maître. Prions ensemble. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Que tu nous accordes, Seigneur, aujourd'hui, à un moment où nous puissions encore réfléchir ici là-dessus, sur ces paroles qui portent tellement d'importance pour notre avenir. Donne-nous, Seigneur, d'être émerveillés par l'amour que toi, tu nous as démontré en Christ. Que cela se transforme avec un amour dans notre vie pour d'autres disciples de Jésus-Christ. Que notre Église, cette Église locale, puisse témoigner de la réalité de ton amour pour nous, dans notre façon d'aimer les uns les autres. veuillez nous pardonner pour nos fautes, nos manquements, nos faiblesses. Et veuillez nous donner, par l'œuvre de ton esprit, un nouveau regard pour ce que c'est d'être membre d'une église locale. Que nous puissions te glorifier, nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen.